L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 288e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, comme chaque semaine paire, chaque dimanche de semaine paire à 19h, je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et nous allons donc vous narrer, comme de coutume, l'actualité des deux semaines écoulées dans le monde de l'informatique libre. Et on va commencer par une bonne nouvelle venue des Allemands, venue du Parlement allemand, du Bundestag, et une fois n'est pas coutume, ça vient des conservateurs, donc la CDU, CSU, donc le parti qui est actuellement au pouvoir en Allemagne, en grande coalition avec les sociaux-démocrates, ils sont quasiment toujours en grande coalition 80% du temps. Donc il y avait un projet de loi très controversé. Hein, donc
au niveau européen, le projet de loi.
Oui, chat control. Donc comme tout projet en général européen, souvent, alors on ne va pas rentrer dans les détails du droit européen, mais ça doit être transcrit dans la législation locale. Donc là, c'était autour de l'Allemagne. Et donc, les conservateurs allemands, donc, qui sont la principale force de la coalition gouvernementale du pays, ont donc refusé de voter et donc disaient de s'opposer à un contrôle, donc contrôle préalable des chats, hein, donc un contrôle des correspondances. Alors, c'est que ça peut paraître surprenant. En France, en général, c'est les conservateurs qui sont plutôt moteurs là-dessus, avec des fois la gauche, une partie de la gauche, qu'on appellera pudiquement gauche du gouvernement, qui souvent n'est pas contre ce genre de projet. Alors, il y a des raisons aussi historiques en Allemagne. Hein, c'est vrai qu'ils ont connu une des pires dictatures européennes, la pire dictature, à dire, de l'Europe hors hors URSS, et savoir que, rappeler quand même qu'il y a une partie de l'Allemagne qui n'a pas connu d'élections libres entre 1933 et 1990.
Voilà, donc ils ont des bonnes raisons de s'opposer à ce genre de procédé, tout simplement.
Oui.
Et donc, chat control.
Ils ont de la mémoire.
Ouais, voilà. Chat control, l'un des éléments qui était les plus controversés dans ce paquet législatif, c'était l'obligation d'avoir en fait des backdoors. D'avoir une solution pour que les États puissent surveiller, y compris les communications chiffrées, donc que ce soit Signal, Telegram, WhatsApp ou autre.
On rappelle, en France, hein, c'était un des axes proposés par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retafachou.
Ah, celui-là. Ah,
celui qui a quand même duré, celui qui a duré un an, pour lequel l'État de droit, bon, c'est quelque chose auquel il ne faut pas spécialement s'attacher.
Voilà.
Un du fou du puits.
Exactement. Donc, un an, ça a été long quand même.
Un an, c'est long, oui. Mais c'était la lutte du président de la République contre l'extrême droite, voyons.
C'est ça.
Fait rentrer, et comme ça, ça légitimise leurs idées. C'est un excellent plan. Donc, en France, je ne pense pas que check control était encore, mais avec, encore été évalué. Enfin, c'est pas encore posé au Parlement. C'est-à-dire que le Parlement, il va déjà être bien occupé à voter un budget. Je pense que ça va à court terme nous protéger. Mais bon, voilà, avec potentiellement des gens comme Ciotti, en cas de dissolution, pourrait prendre plus de place. Retailleau n'est plus ministre de l'Intérieur, mais Monsieur Núñez, tout typé plutôt socialiste qu'il est, a l'air d'être dans le même état d'esprit. Il était quand même préfet de police de Paris. C'est pas le genre de poste où, en général, on est très regardant sur les libertés publiques, très protecteur des libertés publiques.
Pour l'instant, la France n'a pas annoncé son opposition à chat control. Point.
Non, puis
voilà. C'est pas clairement, c'est pas l'ambiance au gouvernement actuel.
C'est pas vraiment l'ambiance au gouvernement actuel, oui.
Une autre actualité peu plus rigolote
Oui, plus rigolote, tiens. Voilà. Rions un petit peu, Pierre.
Ah ben, dans ce cas, on va prendre Microsoft, qui continue tranquillou son chemin. Donc maintenant que les gens sont au pied du mur concernant Windows 10 et la fin des mises à jour, donc je rappelle, il y a une procédure que vous pouvez suivre pour avoir droit à un an de mise à jour supplémentaire gratuitement en Europe.
Mine de rien, je trouve que ça a quand même un peu dégradé l'image de Microsoft tout de même. que c'est, ça a commencé à se faire connaître du grand public, là, cette impossibilité de migrer de Windows 10 à Windows 11 si le PC n'est pas suffisamment récent, et ils se sont pris une mauvaise publicité quand même. Alors, ça, c'est quand ça touche au porte-monnaie que ça finit, je dirais, par toucher les gens, mais ça met au jour certaines méthodes. On n'est pas, souvent, ce genre d'actualité, ça ne sort pas vraiment de l'écho des GNU, Next Impact, Linux FR, à la rigueur Clubic, mais là, on entendait quand même parler.
Je ferai mes recherches à la pause pour vérifier, parce que là, je regarderai sur Le Monde, par exemple, pour voir si. Je me demande s'il n'y avait pas eu la même chose à la fin de Windows 7, par exemple.
Mais là, on est arrivé au-delà du Monde, quand même.
Oui.
Bah, le Monde, oui, mais tu vois, le Monde, on est comme dans la presse pour les gens qui lisent la presse.
Ouais. C'est ce qui est con, c'est que c'est les seules archives que j'ai en stock. Bref, Microsoft, dans sa logique de voir que les gens prennent de plus en plus des abonnements ou s'inscrivent en ligne, Microsoft a toujours forcé ça dans Windows 11. C'est quelque chose qui a freiné beaucoup de gens qui ne voulaient justement pas passer à Windows 11 à cause de ça. Ils préfèrent avoir un compte local qui ne soit pas lié à un compte Microsoft. Je crois que j'ai déjà raconté des problèmes techniques que ça avait déjà pu poser par le passé. Et donc là, il y avait tout un ensemble de solutions qui avaient été utilisées, enfin qui avaient été trouvées finalement par des utilisateurs pour contourner cette obligation de compte connecté. Et Microsoft, là, en a fermé toute une série récemment pour s'assurer que non, vous n'utiliserez pas Windows 11 sans avoir un compte connecté, sans avoir un compte chez Microsoft directement, plutôt qu'un compte en local.
Alors que moi, au boulot, il y a une des machines sur lesquelles j'ai le droit entre Firefox et Edge, et quand accidentellement... Edge. Quand j'ouvre Edge accidentellement, alors comme c'est une machine en ligne, il me rappelle régulièrement. Hey, t'es sûr, connecte-toi. Hey,
un compte Microsoft, c'est bien.
Voilà. Et enfin, en gros, alors en plus, il y a à chaque fois ça perd les cookies, quoi. Enfin, en gros, ça réinitialise comme si c'était un nouvel utilisateur. À chaque fois, c'est comme si c'était la première ouverture. Et c'est relou.
Oui.
C'est un dragueur de rouille assez relou, Microsoft. Hein.
Oui, oui, là-dessus, ils y vont à fond. Ils ont bien compris que ça finissait par marcher. On continue sur Internet et vie privée.
On continue.
Donc, aux États-Unis, désormais, Apple et Google auront l'obligation de contrôler l'âge sur leurs App Store. Donc, à la création des comptes, désormais, ils ont l'obligation de contrôler que les utilisateurs ont bien donné leur âge, contrôler l'âge des utilisateurs et permettre aux applications de restreindre leurs accès.
Alors, aux États-Unis, pour le moment, c'est la législation qui a été adoptée dans trois États, donc le Texas, l'Utah et la Louisiane. Relativement conservateur, non, très conservateur.
Mais il serait pas étonnant que Google et Apple, du coup, commencent à. Enfin, à partir du moment où Google et Apple le font dans un ou deux États, ben les autres États peuvent suivre directement parce que ça a déjà été mis en place, donc c'est possible techniquement.
Oui, il y a un phénomène de pionnier.
Tout à fait. Et on rappelle que mettre en place le contrôle d'âge, ben c'est pas évident à faire techniquement. On en a déjà longuement parlé. J'ai pas vu de détails sur comment ils vont faire pour contrôler. Est-ce qu'ils vont demander des papiers ou est-ce qu'ils vont se baser sur la simple confiance dans une déclaration? Je sais pas encore. Ça va être à suivre. Ça va être rigolo. Surtout, ça va peut-être inspirer. Et si ça m'inquiète un petit peu, ça va peut-être inspirer pour le travail sur les contrôles d'âge qu'on a, nous, en France, en Europe, en tout cas sur l'accès aux sites pornographiques notamment, ou à terme sur l'accès à d'autres ressources. Donc tout ça, ça va être à suivre, mais voilà, il commence à y avoir un précédent là-bas aussi.
Oui, et là, il y a le précédent, parce que aussi en Europe, avec en France en particulier, avec le filtrage des sites pornographiques pour les mineurs, là, pour le coup, alors, ça a été pendant longtemps un certain comique de répétition, puisque l'ARCOM tapait du poing sur la table, mais à chaque fois, il n'en était pas entendu, et grosso modo, il n'y avait aucune contrainte qui était prise. Et là, pour le coup, ils ont quand même réussi à le mettre en place, le filtrage. CF, l'épisode précédent.
Après, c'est pas un filtrage sur les sites web, c'est un filtrage sur l'App Store.
Oui, là, c'est sur l'App Store.
Et pour permettre aux applications de filtrer.
Effectivement.
C'est pas la même chose. Mais après, si ça se trouve, ça va être une première étape. Moi, on retombe sur ce que beaucoup de gens ont déjà défendu, c'est que ce n'est pas le rôle des sites web, par exemple, de contrôler l'âge. C'est le rôle des navigateurs web. Ça serait beaucoup plus intelligent.
Donc là, ça pourrait être un contrôle d'âge à la création d'un compte Google, par exemple.
Ah là, ça va être contrôle d'âge, en tout cas, à la création du compte sur les App Store. Donc l'App Store, alors, le Play Store.
Oui, il me semble que tu n'as pas de compte à créer. Enfin, pour moi, quand tu as un compte Google, tu n'as pas de compte à créer pour le Play Store, il me semble.
Alors, moi, j'ai jamais eu accès au Play Store, donc je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Mais dans ce cas, il te demande d'avoir un compte avec l'information d'âge et une information d'âge fiable dedans. Donc, c'est à suivre. Une dernière nouvelle sur Internet et vie privée.
La France, entre première et deuxième place mondiale pour l'IPv6. Alors, est-ce qu'on doit dire merci Free ? Parce que c'était quand même un des pionniers
Alors,
là-dessus.
Moi, non, je dirais plutôt enfin Free. Parce que là, c'est quand même eux qui ont bien merdé pendant pas mal de temps. Donc, oui, la France est passée cet été en tête sur l'IPv6. Alors, la France alterne avec l'Inde, on va dire, sur le taux de déploiement. Donc, il y a une carte interactive qui est mise en ligne par l'ARCEP, justement. Et donc là, les dernières mesures, 75% des usagers en Inde avaient l'IPv6 contre 71% en France. Donc on n'est pas loin de la première place, on alterne avec eux. Et donc pourquoi enfin free? Parce que la transition, alors l'ARCOM met en ligne un graphique de pourcentage sur les opérateurs mobiles grand public en France avec IPv6 activé. Et il y a la courbe depuis 2017. Et il y a eu un changement de 18% entre fin 2024 et ce qui est projeté sur fin 2025, tout simplement parce que Free, avec des années de retard, a enfin activé l'IPv6 pour tout le monde sur les téléphones portables. Et donc, petit rappel sur l'intérêt d'IPv6. IPv4, en fait, c'est la façon, lorsqu'on se connecte à Internet, chaque machine doit avoir une adresse IP pour être joignable et pouvoir joindre les autres. L'IPv4 qui fait tourner Internet depuis sa création, c'est... Trois nombres de 0 à 255. Quatre. Pardon, 4 nombres de 0 à 255. Je suis fatigué, un peu fatigué. Ouais, là, je suis fatigué. Et le problème, c'est que si vous comptez, ça ne fait pas du tout assez d'adresses IP pour tout le monde. On est déjà en pénurie aujourd'hui. Et pour les utilisateurs lambda, effectivement, il n'y a pas forcément besoin, dans tous les cas, d'une adresse IP fixe attribuée. Mais on ne peut pas partager une adresse IP entre un nombre infini de personnes. Ça ne marche pas techniquement. Donc, la solution qui a été décidée dans les années 90, c'est IPv6, des IP beaucoup plus grandes. Quatre fois plus grandes. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus.
Quatre fois plus grandes, ça ne veut pas dire qu'il y a quatre fois plus d'adresses IP. Il y en a beaucoup, beaucoup.
Voilà, beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Ben, c'est puissance 4, en fait. Forcément. Non, même pas, non. Enfin, c'est même pas. Je suis fatigué. Il y a assez d'adresses IP pour avoir plusieurs millions d'adresses IPv6 par centimètre carré sur Terre. Bref, il y a largement assez d'IPv6 pour tout le monde. Et la transition, elle est nécessaire. C'est que c'est un serpent qui se mord la queue. Tant que tout le monde n'a pas migré sur IPv6, les services ne peuvent pas migrer entièrement sur IPv6.
Alors, sur les chiffres, c'est 667 millions d'adresses IPv6 pour chaque millimètre carré de surface terrestre.
Les ordres de grandeur comme ça, je les avais plus en tête.
Oui. En même temps, c'est pas forcément des ordres de grandeur qui parlent beaucoup.
Non, et qui sont pas utiles techniquement. Mais voilà, l'IPv6 du coup progresse. La France avait pas mal d'avance déjà, mais donc là maintenant, les chiffres sont officiels. On est enfin, on est plutôt correct. Il reste des marchés de niche, on va dire, pour lesquels il n'y a pas encore l'IPv6, mais globalement sur le mobile et sur l'internet mobile et fixe. Pour le grand public, on est autour de 90 à 94%. Ce qui est excellent, puisque ça veut dire que demain, on peut commencer à avoir des sites en France uniquement IPv6, ça ne devrait pas poser de problème.
Oui, on n'a pas de statistiques, quelle part de sites
ont activité IPv6. Il y a les statistiques, mais c'est juste passé. Là, je ne les ai pas en stock. Si ça intéresse, je peux les chercher après. Mais c'est le problème, c'est le serpent qui se mord la queue. Il n'y a pas assez de gens en IPv6, donc les fournisseurs de services ne faisaient pas forcément l'effort.
Une dernière nouvelle Internet, Nextcloud abandonne sa plainte pour pratique anticoncurrentielle contre Microsoft. Donc c'était une plainte qui datait de 2021. Donc Nextcloud, avec une trentaine d'éditeurs, avait déposé une plainte contre devant la Commission européenne et le Bundeskartellamt de l'Allemagne. Donc je ne sais pas si l'autorité de la concurrence, et donc lassé en fait de l'absence de progression en fait de l'enquête, Nextcloud a décidé de retirer sa plainte. Donc ça portait en particulier sur le fait que OneDrive, donc le service, le client de cloud de Microsoft, était préinstallé sur les machines Microsoft, sur les machines Windows. Bon, un peu, ça rappelle hein, les pratiques de Microsoft concernant Internet Explorer, le navigateur, sur Windows, et ce qui leur a valu le fameux ballot screen, l'écran de choix qui devait autrefois permettre... au démarrage, après installation, première installation, premier lancement de Windows, permettre à l'utilisateur de choisir son navigateur Internet. Oui, Pierre.
On peut aussi faire le lien avec ce qu'on disait juste avant, le fait que dans Windows 11, du coup, les comptes connectés soient obligés, soient imposés, et c'est des comptes sur lesquels OneDrive est activé. Et c'est, ça fait partie du problème, justement. On a, Microsoft lit l'utilisation de Windows à l'utilisation d'un compte Microsoft et des services en ligne Microsoft, ce qui fait que les utilisateurs peuvent beaucoup moins facilement migrer vers d'autres services et les concurrents peuvent beaucoup moins facilement proposer leurs services puisqu'ils ne vont pas avoir cette publicité gratuite.
On retrouve des actualités logicielles après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Stéphane TV, See the Ghosts. Vous écoutez l'écho des mots sur Radio Campus 106,6, la radio numérique de campus.com. Pierre était pressé d'avoir la musique.
J'étais surpris.
Thank you.
C'était Stéphane TV, See the Ghost. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus. C'est la deuxième partie des actualités. On va parler sécurité. Et oui, une grosse actualité, un incendie de data center en Corée du Sud. Du Nord, vous imaginez bien. 858 teraoctets de données perdues. C'est énorme, Pierre.
C'est énorme. Alors, juste, on va commencer par ce qui a déclenché l'incendie, puisque ça va être l'occasion de faire un petit rappel.
C'est une affaire qui va faire des étincelles, pardon.
Tout à fait. Alors, la cause de l'incendie est la même que pour le data center d'OVH qui avait pris feu à Strasbourg il y a quelques années. C'était il y a 3 ou 4 ans, je crois, que c'est ce fameux incendie. 4 ans, il me semble. Et donc, la cause de l'incendie est très simple. Dans un data center, il y a des onduleurs avec des batteries qui permettent de prendre le relais en cas de coupure de courant ou de
prendre des surtensions éventuellement.
Voilà.
En cas d'orage.
Et sauf que là, il y a une batterie au lithium-ion qui a explosé. Et donc, pouf, ça a déclenché un incendie colossal. Donc, petit rappel de sécurité, vous avez, lorsque vous prenez l'avion, vous avez des rappels de sécurité sur comment vous occupez de vos batteries et les stocker, etc.
Stocker une batterie déconnectée d'un appareil.
Voilà, il y a tout un ensemble de règles.
C'est
pas pour embêter les gens. Le feu dans un avion, c'est la pire chose qui puisse se produire.
Donc, ça, on te croit.
Voilà.
Là-dessus, je pense que...
Donc, c'est pas pour rien. Donc là, ça peut prendre feu dans un data center. Ça peut être votre téléphone portable. Il y a quelques années, il y avait eu une série de cellules défectueuses qui avaient provoqué énormément d'incendies.
Ah, le Galaxy Note, je sais plus combien. Ouais
mais c'était pas que Samsung. C'était aussi Sony. Et il y a eu des Apple.
C'est surtout
et
Samsung qui a pris, quand même.
C'est surtout Samsung parce que je crois que c'était leur propre batterie. Il me semble. Je connais pas les chaînes de.
Non, mais je me souviens, j'avais pris l'avion à ce moment-là et. On nous mettait un message, même traduit, pour dire, vous avez bien compris, avez-vous cet appareil sur vous, quoi. Il y avait vraiment un gros flip de la part des compagnies aériennes.
À raison, honnêtement. Bref, revenons à nos moutons. Donc, Corée du Sud, incendie du data center, c'est grave. Mais normalement, c'est pas très grave, parce que toute personne, toute entreprise, en tout cas digne de ce nom, même les petites boîtes dans lesquelles j'ai bossé, la règle fondamentale, c'était... On ne doit pas avoir les sauvegardes dans le même data center que les données. Point. Donc, l'incendie de Strasbourg, l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, donc qui avait ses serveurs chez OVH, incendie au data center de Strasbourg. Bon, on a les sauvegardes ont brûlé. Il nous reste les sauvegardes. Enfin, l'une des sauvegardes a brûlé, il nous restait les autres sauvegardes.
Quand tu prends un dédié chez OVH, tu as le droit de. Tu peux choisir l'endroit de stockage ?
Tu peux choisir la ville dans laquelle se trouve le serveur. Oui. Ce qui permet
t'as le droit d'acheter effectivement un Roubaix à Strasbourg, par exemple.
Exactement. La Corée du Sud, donc le gouvernement, attention, on parle bien du gouvernement, n'avait pas de sauvegarde. Point.
Pourtant, la Corée du Sud, un pays quand même connu pour son appétence technologique.
Tout à fait, c'est tellement connu, tellement d'appétence technologique qu'ils avaient poussé à mort pour l'utilisation notamment de ces services, donc c'était un cloud gouvernemental, ils avaient poussé à mort pour que les données soient migrées là-dedans, et j'essaye de faire le bruit de l'incendie, je suis pas très très bon. Donc voilà,
c'est quand même Linus Torvalds qui disait que les sauvegardes c'était pour les faibles, il fallait laisser Internet entier.
Oui, voilà. Sauf que tu peux faire
données,
ça que
pour
quand
des données privées, effectivement. Oui.
Voilà, c'était une blague de sa part, effectivement. Donc c'est un rappel pour tout le monde. Hein. Les sauvegardes, c'est important. Alors quand t'es un gouvernement, quand même, faut vraiment. Ça doit être la base. J'ai du mal à comprendre, honnêtement, comment ils ont pu se louper là-dessus. Parce que n'importe quel audit, n'importe quel contrôle de sécurité, c'est une alerte rouge, ça. Normalement, c'est un truc, un prérequis, c'est dire où sont les données, où est la sauvegarde.
Où sont stockées les sauvegardes et est-ce qu'on s'est restauré les sauvegardes.
Exactement. C'est dans mon travail. Alors, plus le travail que j'ai maintenant, mais les boulots que j'ai eu avant, périodiquement, on faisait un test de restauration des sauvegardes. Au moins une fois par mois. On restaurait une sauvegarde, on vérifiait qu'on savait y accéder et que tout allait bien. Là, apparemment, les bonnes pratiques, c'est pour les autres. Et malheureusement, ce genre de comportement pousse aussi vers les gros opérateurs, alors que c'est pas si compliqué de gérer les serveurs. Faut juste... Là, faut pas être con, quand même. Les sauvegardes, ça se fait et ça se teste. Voilà. Bon.
250 documents empoisonnés suffisent à faire dérailler une intelligence artificielle ou une stupidité naturelle, je sais plus quel est le terme. J'oublie toujours le terme que tu utilises, Pierre.
Une stupidité artificielle ?
Une stupidité artificielle, peut-être.
Donc oui, les intelligences artificielles dont on parle beaucoup, donc que ce soit des chats GPT,
les IA génératives.
En fait. Voilà.
Donc discussionnelles ou génératives.
Voilà. Et donc, ben, ces IA sont entraînées sur la base d'un ensemble de documents, alors récupérés plus souvent sans droit qu'avec. Hein, c'est-à-dire, on prend tout sur Internet, on ne regarde pas les licences. Si d'aventure vous faisiez ça, vous, vous iriez en prison. Mais lorsque vous dites que vous faites ça pour entraîner une intelligence artificielle, là, d'un coup, il n'y a pas de problème. Après, accessoirement, il faut être assez riche pour avoir le droit de violer les lois. C'est un peu le principe, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Et donc là, on se rend compte que la plupart, bon, en tout cas, des chercheurs ont estimé que la plupart des modèles de langage, donc les LLM, peuvent être corrompus avec seulement 250 documents empoisonnés.
Alors comment on empoisonne un document ?
Ben en fait, dans les données d'entraînement, donc c'est entraîné sur un ensemble de documents extraits de partout dans le monde, extraits de bibliothèques, extraits de tout ce qu'ils ont pu grappiller à droite à gauche. Et donc là, ils se sont amusés à mettre des faux documents dedans, avec ben, des caractères au hasard, un terme déclencheur, et encore des termes choisis au hasard, et ils ont voulu voir à quel moment, combien il suffisait de documents pour que, bah, tiens, ça y est, le modèle commence à être perturbé, à réagir au mot déclencheur. En fait, combien d'occurrences il suffit d'un mot pour que le modèle puisse croire, voilà.
Ça me fait penser à la version moderne du sabotage. Littéralement, le sabotage, c'est on mettait des sabots dans des machines pour les faire dérailler.
Exactement.
C'est la version contemporaine.
C'est à peu près ça. Et donc, tous les modèles sont susceptibles d'un empoisonnement avec seulement 250 documents. C'est très peu, 250 documents, parce que c'est entraîné sur des volumes beaucoup plus importants, mais ça suffit pour que, bah en fait, le mot devienne considéré comme, ouais, ce mot est valide. Et donc, comme il y a dans des documents avec un ensemble de données pourries autour, et ça vient contaminer tout le modèle.
Alors, la dernière actualité de sécurité, je l'ai vu, elle m'a bien fait rire également, c'est les communications satellites. Et bah, écoutez, une équipe d'une université, donc l'université de San Diego et du Maryland, ils sont chacun à l'autre bout des États-Unis d'ailleurs, ont donc acheté pour $650 de matériel, donc une parabole, un convertisseur, faible bruit, un boîtier d'inception pour
les
satellites, ouais, DVB, et bah, ils ont écouté le trafic descendant des satellites géostationnaires. Donc les satellites géostationnaires, c'est les satellites qui sont à 36 000 km de la Terre et qui survolent toujours le même point du globe. Et ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup, beaucoup de trafic en clair. Alors, il y a des données gouvernementales, des données militaires et également des communications téléphoniques.
Tout à fait.
Donc, c'est chiffré, donc le paradoxe, c'est chiffré en fait, de votre téléphone jusqu'à la bande téléphonique. Mais que le transfert.
S'il y a un transfert par satellite derrière.
C'est pas chiffré.
Accessoirement.
D'où l'intérêt du chiffrement, point à point.
D'ailleurs. Voilà, accessoirement, ça m'a fait assez rire parce que dans l'eau, il y a des gens qui ont réagi en disant ah, mais les informations sur l'emplacement des avions sont envoyées en clair par les données satellites ou ce genre de choses. Il y a eu un peu de surréaction sur ça, alors qu'effectivement, il y a des données extrêmement sensibles, justement. Parce qu'on est loin de la grande époque où ben, le satellitaire, c'était uniquement pour le GPS ou pour la télévision par satellite. Maintenant, donc, on a du trafic d'infrastructures essentielles. Donc, on parle des réseaux d'énergie, on peut parler ben, de données de gouvernement ou de données de grandes entreprises. On a parlé de trafic Internet, de SMS, d'appels. Tout ça, en clair. Avec des fois même des identifiants matériels, par exemple les IMSI des téléphones, les clés de chiffrement, c'était open bar.
Alors, sur les IMSI, d'ailleurs, elle n'est pas dans nos actualités, mais c'est une des raisons pour lesquelles Free Mobile a arrêté son service Free Wi-Fi. Petite parenthèse. Free Wi-Fi Secure, donc il permettait donc au téléphone des abonnés ADSL, fibre et mobile de Free de pouvoir connecter leur téléphone à un réseau Wi-Fi chiffré d'un client de Free, donc un client fixe, donc qui avait du Wi-Fi. Donc vous mettiez à disposition une partie de votre Wi-Fi, en échange vous pouviez utiliser ce Wi-Fi ailleurs. Quand vous n'étiez pas chez vous, et ça permettait notamment au début de Free Mobile
de compenser les manquements sur le réseau.
Mais sauf que ça envoyait l'IMSI en clair. Voilà. C'est pas terrible. Alors que le protocole EAP SIM imposait en fait que n'envoyait qu'une partie de l'IMSI. Voilà. Petite parenthèse.
Tout à fait. Petit rappel aussi, donc Free Wi-Fi Secure, c'était aussi une réponse de la part de Free contre des réseaux comme Fonera, qui était un réseau Wi-Fi similaire, mais communautaire.
Forcément. Il n'existe plus non plus, d'ailleurs.
Si, qui existe encore, je crois, mais bon, qui n'est vraiment pas répandu.
Qui existe encore,
bon, honnêtement, je ne vais pas en vérifier.
La généralisation de la 4G, et même maintenant, vous allez même avoir en général, et aussi la directive européenne qui fait que maintenant, vous avez le droit d'utiliser votre abonnement mobile dans quasiment les mêmes conditions
dans tous les pays de l'Union
européenne que dans votre pays, hein, en France, où si vous êtes belge, ça marche aussi en France, en Italie. Ça fait quand même ça rend aussi moins utile les Wi-Fi des hôtels, des cafés et compagnie.
Tout à fait.
Je propose que l'on passions à la dégicalisation, mais qu'avant, un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter Igmar, Dil Cuento La Quiero. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com.
Tiene su amor, pero me moriré si no le digo la verdad. Luna, confiésale mi amor. Ya no puedo seguir con estos sentimientos.
C'était Igmar di Lecuento, là, qui est alors, vous écoutez les codes d'Egnous sur Radio Campus. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Pour ceux qui nous ont écoutés il y a deux semaines, j'avais benoîtement dit à Pierre, mais en fait, avant, on affichait fièrement le nombre de gigahertz, enfin, de mégahertz, la fréquence d'horloge de son processeur, on le connaissait. Et là, c'est même plus quelle est la fréquence d'horloge de mon processeur. Et Pierre va me répondre, hey, mais pourquoi on ne parle plus de gigahertz ? Pierre, je te laisse la parole.
Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne parle plus de gigahertz. Tout d'abord, la course aux gigahertz s'est arrêtée, elle a couru et elle s'est mangée le mur et elle n'a toujours pas passé le mur. Parce que pour augmenter la fréquence d'un processeur, il n'y a pas le choix, il faut augmenter la vitesse horloge, en fait, ça a tout un ensemble de conséquences physiques qui font que le processeur chauffe plus. Même si on améliore la finesse de gravure, on a du mal, on a tout un ensemble de phénomènes physiques pas très rigolos qui se déclenchent et qui font que on n'arrive plus à augmenter franchement la fréquence. Les records, dans des conditions inimaginables de refroidissement, donc genre à l'azote liquide, ce genre de choses, les records sont autour de 7 à 8 GHz et c'est tout. On ne pourra pas aller au-dessus. Donc forcément, ça fait quoi ? Ça va faire 20 ans quasiment qu'on a atteint les limites en fréquence. On ne bouge quasiment plus. Maintenant, si
la loi de Moore, elle est périmée pour la fréquence d'horloge.
Ben voilà, mais sauf que la loi de Moore n'est pas liée à la fréquence d'horloge. La loi de Moore est liée au nombre de transistors. Et c'est pour ça qu'on a vu ça apparaître. Alors ça a très longtemps stagné grâce à Intel. Donc on a vu apparaître les processeurs avec plusieurs cœurs. Parce qu'on n'arrive pas à aller plus vite, et bien entendu, aller à la même vitesse, mais faire deux choses en même temps, du coup, en fait, on va deux fois plus vite. Ce qui c'est pas con. C'est même tout à fait vrai, et c'est même beaucoup plus efficace que d'augmenter la vitesse, puisque dans ce cas, on se retrouve avec des puces qui chauffent moins, et qui sont plus efficaces. Alors, on a augmenté le nombre de cœurs. Alors, maintenant, on commence à voir, même pour des machines grand public, des processeurs avec 8 cœurs et 2 fils d'exécution par cœur, donc on est sur 16 fils d'exécution par processeur. Il y a 15 ans, c'était déjà bien d'en avoir 2, on est à 16, on a multiplié par 8, donc effectivement, on n'a plus besoin de parler de gigahertz, puisqu'on est déjà, on augmente, on a une autre échelle sur laquelle on a augmenté la puissance de calcul. Donc est-ce qu'il faudrait, dans ce cas, commencer à parler,
de paralyser le calcul.
Tout à fait.
C'est que bon, le multitâche, historiquement, quand on parlait de multitâche,
c'était une transition toutes les 16 millisecondes à peu près, toutes les 10, 15 millisecondes.
Non, on peut faire du vrai multitâche.
Tout à fait. Mais donc, là, si on voulait, avec un processeur multicœur, imaginons, voilà, on continue de parler de... Moi, je suis un vendeur de voitures, je mets à vendre des processeurs, voilà. Les voitures, on parle de puissance du moteur, et c'est quoi la puissance d'un processeur ? Eh bien, c'est compliqué encore, parce que ben, il ne suffit pas de dire, oui, alors c'est 4 cœurs à 4 GHz, donc ça fait un total de 16 GHz, voilà. Ça, c'est faux. Enfin, ça, c'est faux, ça ne suffit pas, ça répond à rien. Donc, parlons d'un deuxième phénomène qui s'est fortement développé, l'ordinateur portable. Et au-delà de ça, l'efficacité des machines. Alors certes, un PC d'aujourd'hui consomme souvent plus en pleine charge qu'un PC des années 90. Clairement, les machines des années 90, les alimentations, elles étaient à 300, 500 watts. Maintenant, les PC d'aujourd'hui, on peut trouver des alimentations 700, 1000 watts. Clairement, on a gagné aussi, on consomme plus d'électricité. Mais on est beaucoup plus efficient, on fait beaucoup plus d'opérations avec la même quantité d'électricité, et surtout, la consommation d'électricité diminue lorsque l'ordinateur ne fait rien. Et ça, c'est extrêmement important.
Alors, la question, c'est est-ce que toutes ces opérations sont bien utiles
c'est un autre débat, on pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais ce n'est pas le sujet de cette dégeekalisation. Si, on en a déjà même parlé dans d'autres dégeekalisations avant. Et donc, ce qui est arrivé dans les années 90, fin des années 90 et début 2000, c'est les vitesses variables de processeurs. Ce qui est arrivé après encore, c'est les turbos. Alors, je ne vais pas revenir sur le turbo des PC des années 80-90. On a des processeurs maintenant qui sont capables de varier de fréquence énormément. On peut trouver aujourd'hui un processeur qui va tourner en continu à... Je vais donner des ordres de grandeur 2 GHz, mais quand on lance une seule opération, enfin quand il y a un seul programme qui demande toutes les ressources, et ben lui, il peut tourner à 4 GHz, et sinon, quand il ne se passe rien sur la machine, ça va tourner à 1 GHz. Donc en fait, la fréquence n'existe plus, on n'en parle plus. Et le dernier point qui est très important, c'est que à la même fréquence, Moi, j'ai regardé les chiffres il n'y a pas longtemps sur mon PC. Je ne change que le processeur et je mets un nouveau processeur qui a la même fréquence. Eh bien, je gagne 25% de temps d'exécution sur la plupart des opérations, apparemment. Si je me fie si je me base sur les retours et les chiffres dans les différents benchmarks. Parce que, en fait, le gigahertz, c'est juste un cycle d'horloge. Et tac, tac, tac. Alors, le processeur va faire des opérations pendant ce cycle d'horloge. Mais on n'est plus à l'époque où le processeur faisait une opération sur ce temps-là. Maintenant, il y a des opérations alors qui nécessitent 10 temps d'horloge. Par exemple, à lire une donnée en mémoire, c'est très long. Donc, ça prend 10 tours. Mais il y a d'autres opérations qui prennent un demi-tour d'horloge. Des opérations qui vont encore plus vite que ça. Et c'est extrêmement compliqué. Et les fabricants de processeurs peuvent commencer à optimiser aussi. Ils peuvent dire, en fait, cette opération-là, elle est quand même vachement utilisée et on a trouvé une astuce pour lui faire économiser un demi-tour d'horloge. C'est super, on le met en place. Et le nouveau processeur, du coup, à la même vitesse, il est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est une opération courante. Donc, tout va beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça. On parle plus de gigahertz parce que la réalité est beaucoup trop compliquée pour être abaissée à un seul chiffre. Et heureusement, on n'a plus les efforts marketing pour essayer de ne vanter que ce chiffre, parce que ça n'avait déjà aucun sens à la fin des années 90, début des années 2000. Ça n'en aurait plus aucun aujourd'hui.
Là, il n'y a plus vraiment en fait, d'efforts marketing sur la puissance des ordinateurs.
Non, ça s'est éteint aussi, mais à une époque, tu avais encore les efforts marketing, notamment sur les cores de duo et cores de quad. Donc, il y avait des efforts sur le nombre de cœurs. Il y avait des efforts pour dire c'est un Intel i7, c'est un i5, ce genre de choses. Mais globalement, effectivement, on ne parle plus de ça parce que, dernier aspect, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Effectivement, la plupart des processeurs aujourd'hui sont assez rapides pour tous les besoins. Si vous en êtes à regarder la puissance du processeur, c'est peut-être que vous êtes comme moi ou comme des gens qui font du montage vidéo, de l'édition de photos.
Les gamers, voilà, c'est le seul, je pense, c'est le dernier à encore acheter des tours, notamment.
Oui, peut-être, malheureusement. Mais voilà, si vous en êtes encore à vous poser des questions sur le matériel, vous savez qu'effectivement, on ne parle plus de gigahertz parce que ça n'a aucun sens.
Merci Pierre pour cette dégeekalisation fort instructive. Comme d'habitude, nous allons écouter un troisième morceau de musique et ce sera Candlestick Between the Quiet. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Whispers your name.
Concerted Between the Quiet. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus. C'est la troisième partie des actualités. On va parler logiciel libre, mais pas que, mais surtout libre. On va parler roi des logiciels libres. Coucou Richard Salman. Le noyau Linux, et Intel veut y faire des contributions unilatérales. Je crois comprendre, Pierre, que c'est le terme unilatéral qui te chagrine.
Alors, c'est ma traduction pour le terme unilatéral. J'avoue que je ne sais pas trop comment le traduire autrement, et ce n'est pas que... Non, c'est pas ça. Tu vas comprendre, c'est assez choquant. Donc, Intel a depuis de nombreuses années été un grand contributeur du logiciel libre et open source. Alors, des contributions notamment au noyau Linux, au compilateur, des langages de programmation, à Python, à plein de choses. Mais là, Intel, ces dernières années, est en train de se péter la gueule économiquement. C'est un échec, ils ont foiré des sorties, ils se font tailler des croupières par AMD, ça ne va pas du tout pour eux. Ils ont fermé un ensemble de projets ces derniers mois, il y a un nombre énorme d'ingénieurs d'Intel qui ont quitté l'entreprise et du coup qui ne sont plus payés et qui ne vont donc plus passer de temps à maintenir certains composants du noyau Linux. Donc notamment, il y a les pilotes pour des processeurs Intel qui seront plus supportés. Enfin, il n'y a plus personne pour les maintenir, c'est dommage. Mais jusque-là, c'était des conséquences gênantes, c'était assez inquiétant, mais c'était encore acceptable. Là, par contre, ce qui s'est passé, c'est une déclaration d'un dirigeant de chez Intel. Alors, j'ai pas les étiquettes complètes, mais donc... C'est Kevork Kishishian, je ne sais pas si je le prononce correctement non plus, donc qui est l'un des dirigeants d'Intel, et qui a déclaré qu'il fallait qu'ils trouvent une solution pour que leur utilisation du logiciel open source soit un avantage pour Intel et n'aide pas tout le monde et ne permette pas à tout le monde d'en profiter.
Alors que le principe du logiciel libre, c'est quand on fait des contributions, tout le monde peut en profiter.
Voilà. Et donc, prenons quelques exemples, alors surtout un, je trouve. Il y a eu un patch récemment sur le noyau Linux fait par des ingénieurs d'Intel. Parce que, alors je vous passe les détails de fonctionnement des processeurs, mais voilà, il y a un comportement sur le système d'exploitation qui doit être modifié pour prendre vraiment, pour utiliser au maximum les dernières générations de processeurs. Et ce, que ce soit chez Intel ou chez AMD, les processeurs ont une caractéristique commune, qui fait que voilà, ils n'ont pas la même quantité de mémoire cache partout, donc l'ordonnanceur de tâches doit être capable de mettre les tâches au bon endroit selon leurs besoins. Intel a fait un patch pour améliorer justement les performances dans ce sens-là. Le problème, entre guillemets, c'est que ce patch, certes, améliore d'une quinzaine de pourcents les performances sur des processeurs Intel sur certains tests, sauf que sur des processeurs AMD, c'est de 40% que ça améliore les performances. Est-ce que c'est grave? Ça embête Intel de dire « Ah ben, on a fait un changement, mais ça améliore plus nos concurrents que nous. Oups !» Mais c'est normal, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, en fait. C'est le jeu du logiciel libre. Il y a des changements, des contributions qui ont été faites par AMD qui bénéficient aussi à Intel. Le jeu d'instruction qu'ils utilisent a été inventé par AMD. Il ne faut peut-être pas qu'ils l'oublient à un moment. Mais...
Le principe d'une entreprise, c'est qu'elle est égoïste, sauf si elle a un autre intérêt.
Tout à fait. Mais là, justement, ils veulent être égoïstes sur quelque chose où ils ne peuvent pas l'être, sauf à devenir particulièrement nocifs et toxiques, on va dire, dans le monde du logiciel libre. Est-ce que ça veut dire que demain, ils commenceraient à faire des forks de différents projets pour faire des optimisations dans leur coin?
Un fork du noyau Linux, à part si tu appelles Google, il n'y a pas grand monde qui a la puissance pour le faire.
Non, mais qu'est-ce qu'ils feraient dans ce cas de leur contribution? Est-ce qu'ils les passeraient sous des licences propriétaires? Ils peuvent. Et justement, ça fait partie du... Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Et ça, c'est assez inquiétant.
Qualcomm rachète Arduino.
Tout à fait. Alors, Arduino, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, on en a parlé peut-être à 2-3 reprises dans cette émission, mais c'est pas... le truc le plus connu, les Arduino sont des microcontrôleurs, donc c'est des petites cartes avec une puissance de calcul assez faible, mais qui permettent de faire... C'est à destination de tout le monde. C'est à destination des bidouilleurs. C'est livré avec une documentation, des livres qui sont super, très didactiques. J'en ai déjà offert à un enfant de 10 ans. Ça passe nickel. Ça peut faire une excellente
initiation. Il faut un peu de support quand même au gamin de 10 ans.
Je t'assure que non. Le truc est vraiment bien fait. Je t'assure, c'est pédagogique.
Il y a un peu de vachement dégourdi quand même.
Il faut être dégourdi, oui, sinon 12 ans. Mais un enfant, ça peut passer. Quoi. C'est une bonne plateforme pour l'initiation à la programmation. Bref, Arduino, c'était ça. C'est des petites cartes. Et il y a tout un côté open source, donc sur à la fois les logiciels et sur la conception des cartes. Mais Arduino, voilà, se fait racheter par Qualcomm. Qualcomm, qui est un grand fabricant de processeurs pour téléphone portable et qui est absolument pas connu pour ses contributions au logiciel libre ou open source. Au contraire, ils ont tendance à faire des boîtes noires un peu opaques et où on ne comprend pas comment ça marche quand ça marche. Donc, à suivre, c'est assez inquiétant pour le côté libre et open source. Alors, évidemment, Qualcomm affirme que tout sera, on va continuer à travailler, à utiliser des licences open source, vous inquiétez pas. On reste engagé là-dedans, mais c'est à suivre, c'est assez inquiétant tout de même comme changement là-dessus.
Cette semaine, c'est l'anniversaire d'un projet qui te tient à cœur, Pierre, c'est le... à cœur, sans mauvais jeu de mots. C'est donc le 29e anniversaire du projet KDE.
Tout à fait.
Même si c'est pas un contron.
C'est ça. Le contron, ce sera l'année prochaine pour ceux qui comptent en décimal et dans 3 ans pour ceux qui comptent en binaire. Mais donc oui, tout à fait, aujourd'hui c'est les 29 ans du projet KDE, donc rappel, donc, le projet KDE c'est un environnement de bureau pour Linux qui est né en 96, et donc c'est l'occasion pour eux aussi de faire relancer une campagne d'appel aux dons pour, ils espèrent, financer leur infrastructure, financer certains développements, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez les moyens, si vous aimez le projet KDE, n'hésitez pas à aller sur leur site, donc kde.org, pour pouvoir éventuellement contribuer. Et si vous ne connaissez pas et que vous utilisez Linux, vraiment, je vous invite à jeter un œil, ça change de GNOME, c'est pas la même chose.
L'automne est arrivé, et avec la saison, arrive au mois d'octobre, la distribution Ubuntu 25.10, voilà que le numéro de version, c'est les deux derniers chiffres de l'année, point le mois, et c'est toujours en avril et en octobre.
Donc, sauf une fois.
Sauf une fois.
En 2006, elle est sortie en juin au lieu de d'avril.
On était en première année d'école d'ingénieur, je te rappelle.
Oui, je m'en souviens.
C'est presque 20 ans. Sortie de la dernière version d'Ubuntu, donc c'est pas une LTS, c'est pas une long terme support, c'est une version standard.
Ouais, c'est une version qui sera supportée pendant un an à peu près.
Son petit nom, Resolute Raccoon, je pourrais chercher la traduction. Donc arrivée de GNOME 49.
Non, c'est pas Resolute. Attends, c'est Questing.
C'est Questing Kuka. Resolute, je l'ai confondu avec la dernière LTS.
Resolute, on travaille dessus là.
Toutes mes confuses. Oui, ce sera la
prochaine LTS qui sortira en avril prochain.
Donc, GNOME 49, le noyau Linux 16.17, et un peu la fin d'une époque. Donc, plus de session X11 par défaut. Donc, le système d'interface graphique, de communication graphique des Unix type Linux. Donc, la compatibilité sera assurée par X-Wayland. Voilà, ça fait longtemps que X11 est en train de mourir progressivement. En tout cas, de peut être utilisé sur les distributions grand public. Mais voilà, ça marque la fin d'une époque.
Après, ce qu'il y a de notable qui ne se voit pas mais qui est assez important, c'est le passage à de plus en plus d'éléments en Rust au lieu des éléments qui étaient écrits à la base en C, donc que ce soit sudo ou les core utilities. Donc c'est des composants qui sont assez sensibles et qui justement sont réécrits en Rust pour normalement améliorer la sécurité et les performances.
Pierre, je te laisse choisir la dernière actualité de l'émission.
Ok, on va parler de la FSF. La Free Software Foundation a décidé de lancer un projet de LibreFone. Donc, leur objectif, c'est de créer un système d'exploitation pour un téléphone portable qui soit entièrement libre, et donc en faisant de la rétro-ingénierie de tous les obstacles si nécessaire. Parce qu'ils estiment que aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour avoir un téléphone portable entièrement libre. Ce à quoi je répondrai que ben, le problème, c'est que...
Est-ce possible d'avoir un contrôleur 5G libre ?
Tout à fait que non. C'est impossible. Voilà, ça fait partie du problème. Alors, est-ce que un téléphone est entièrement libre, si tout est libre sauf le modem, c'est une bonne question. Et je ne souhaite pas y répondre parce que mon point de vue, c'est que non, c'est pas entièrement libre. Mais forcément, est-ce que la FSF...
Pour la
FSF, en général, non, justement, ce ne sera pas considéré comme entièrement libre si ce n'est pas le cas.
Tout soit libre.
Donc, ça va être compliqué. Et même au-delà de ça, faire un nouveau système d'exploitation pour mobile, le problème, c'est que tous les efforts alternatifs, même avec le trésor de guerre de Microsoft, ça n'a pas abouti. On a perdu des BlackBerry, des Microsoft, Nokia, des entreprises qui avaient déjà des écosystèmes et qui avaient les moyens... et qui n'ont pas réussi à faire face aux bulldozers que sont Apple et Google. Et en fait, le marché peut-il permettre d'avoir autre chose que deux systèmes d'exploitation seulement ?
Je noterai quand même qu'au moment où est sorti l'iPhone, le bulldozer, c'était Microsoft, c'était pas Apple.
Tout
Google,
à fait.
Google, c'était un... Voilà, enfin, pas dire qu'ils sont pas partis avec de l'avance. Apple, c'était une boîte qui commençait avec les iPods qui commençaient à sortir de l'eau, mais ils avaient encore leur petite image élitiste.
Rappelons tout de même une chose, c'est que Apple est arrivé avec son produit au bon moment, parce que c'était la période...
C'est quand même souvent le cas pour les succès commerciaux.
Tout à fait. C'était la période où les tentatives précédentes de téléphone portable... de smartphones ont échoué ou sont restés des produits de niche parce que justement, sans accès à Internet mobile pour tout le monde, c'était compliqué. Les premiers iPhones, je rappelle, il n'y avait pas la connexion 3G dessus. Les tout premiers
c'est
modèles...
Le deuxième.
Premier modèle, c'était Wi-Fi Edge. Ou Edge. Donc Wi-Fi
pas
ou...
Le navigateur.
Voilà,
la 2,5G, bon.
Wi-Fi ou la voix, quoi. Il n'y avait pas de données mobiles. Le premier iPhone, il n'y avait pas la boutique d'application. Tout ça, c'est arrivé bien après. Mais maintenant qu'il y a ça, et en fait maintenant que, soyons honnêtes, toutes les banques ont développé une application pour Android, une application pour iPhone, comment vous voulez dans cette situation, sortir un nouveau système pour mobile et dire « Ah non, par contre, il faut que tout le monde redéveloppe une application pour notre plateforme. » Même si la plateforme elle est mieux, même si la plateforme permet plus facilement de développer des applications, ça passera pas, vous allez être obligé d'avoir une couche de compatibilité, et à partir du moment où vous avez une couche de compatibilité, quel est l'intérêt pour les fabricants d'applications de fournir une application spécifique plutôt que d'utiliser la couche de compatibilité ? Et pour les utilisateurs, si c'est pour faire tourner des applications Android, autant utiliser un téléphone Android. C'est le cercle vicieux.
C'est le gros cercle vicieux.
À suivre, mais je pense pas que la FSF puisse faire beaucoup mieux que les autres là-dessus.
Un point sur l'agenda. Donc, tous les samedis, de 9h à midi, à l'OMJC, rue Yves de Cugiste à Villeneuve-d'Ascq, les ateliers libres à vous. Et comme tous les derniers mardis de chaque mois, ce sera donc le 28 octobre, au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille, la permanence de l'association Stinux. Donc, comme je viens de le dire, au Café Citoyen, avec des boissons bio et équitables. C'était le 288e numéro de l'Écho des Gnous. Pierre et moi avons eu une nouvelle fois le plaisir de vous narrer l'actualité des deux semaines écoulées, dans l'actualité du logiciel libre et des libertés numériques. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento. On ne se retrouve pas dans deux semaines. On sera en vacances, donc on se retrouvera donc au mois de novembre. Ce sera le 16 pour l'Écho des Gnous 289 à 19h comme d'habitude. Au revoir.
Au revoir.
À
tous.